1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich will keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, hello Ghislain.
Hello Philippe.
Je crois que c'est la première fois qu'on dit hello.
Bah ouais, tu vois, on s'internationalise.
C'est dingue.
C'est fou ça.
Ouais. Tu prends la main ?
Ouais, je prends la main pour une nouvelle émission sur l'intelligence artificielle.
Ouais.
Et donc je me suis intéressé à intelligence artificielle et création musicale et picturale.
Alors après le côté obscur, le côté plus lumineux ?
Le côté plus artistique, on va voir ce que ça peut donner.
Ça marche.
Allez, on y va.
Vous l'avez entendu tout au long de ce podcast, l'intelligence artificielle progresse, y compris dans le domaine musical. Et les usages que l'on peut en faire sont à la fois nombreux et difficiles à anticiper. À quoi ressemblera la musique du futur ? Et surtout, quelle place y aura l'intelligence artificielle ? Si l'IA entre encore plus dans les usages, il sera sûrement de plus en plus facile de créer de la musique. Aujourd'hui, les IA dites génératives permettent de générer des morceaux en quelques minutes à partir d'une requête qu'on appelle un prompt. Dans le meilleur des cas, la pratique de la musique pourrait donc se démocratiser davantage. Et dans le pire des cas, il y aurait encore plus de musique créée et l'IA pourrait inonder un marché déjà saturé.
On sait que tous les jours sur Spotify ou sur Deezer, il y a l'équivalent de 120 000 produits, dirais-je, qui sont uploadés, donc chargés. Il y a cette notion de choix, de multiplication du choix, et plus il y a de choix, moins il y a de choix.
L'IA pourrait doper encore davantage l'offre. C'est ce qui inquiète Gréco Casadesus, compositeur et fondateur de l'Union des compositeurs de musique de film.
Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le profit, il y a le fait que ce sont des sociétés qui fabriquent ces outils, dont on fait croire que ce sont des outils qui vont permettre à tout un chacun d'être un futur Mozart. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça.
La problématique posée ici est centrale. Si l'usage de l'intelligence artificielle se généralise et que tout le monde peut l'utiliser pour créer de la musique, que restera-t-il du statut d'artiste ? Qu'en restera-t-il s'il suffit d'écrire un simple prompt pour créer une musique ? Si l'IA facilite vraiment la pratique, ne risque-t-elle pas de remplacer certains métiers de l'industrie ? D'un autre côté, les artistes ont toujours dû composer avec de nouvelles technologies et l'IA peut être aussi un simple outil à leur disposition. C'est ce qu'explique Alice Cohen-Adria, maîtresse de conférence à la Sorbonne et chercheuse à l'IRCAM. Pour rappel, l'IRCAM, c'est un institut fondé par Pierre Boulez dans les années 1970 qui se consacre à la recherche et la création en musique et dans le domaine des sciences de la musique.
Moi, venant de l'IRCAM, évidemment que j'ai un point de vue associatif, les chercheurs, les chercheuses, les artistes travaillent ensemble avec l'intelligence artificielle et ça, je vois pas pourquoi on ne voit pas de plus en plus ce genre d'association dans le futur. Ça, c'est clair. Pour la musique plus commerciale, c'est difficile de juger. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression, peut-être que dans un an, ce sera obsolète, mais que ce ne sera jamais complètement automatique.
Et quand on demande à Vincent Loustanlen, chercheur au CNRS, quel sera le futur de la musique ?
Je propose de vous donner le futur de 1917, imaginé par le compositeur Edgar Varèse.
Il cite le compositeur Edgar Varèse qui, 40 ans avant de composer son poème électronique, imaginait déjà le futur de la musique. Écoutez car c'est intéressant pour nous.
Je cite « La musique qui doit vivre et vibrer a besoin de nouveaux moyens d'expression et la science seule peut lui infuser une sève adolescente. Je rêve d'instruments obéissant à la pensée et qui, avec l'apport d'une floraison de timbres insoupçonnés, se prêtent aux combinaisons qu'il me plaira de leur imposer et se plient à l'exigence de mon rythme intérieur. »
Et si l'intelligence artificielle était justement cette sève adolescente dont rêve le compositeur Edgar Varèse ? Et si l'IA allait permettre d'ouvrir des horizons musicaux inédits. Difficile de mesurer quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur la musique. Et selon vous, à quoi ressemblera la musique du futur ?
Quand l'opéra rencontre l'intelligence artificielle, c'est l'alliance improbable proposée à partir de ce soir à Paris au Châtelet jusqu'à vendredi en création mondiale, un spectacle intitulé Android Opéra Mirror, spectacle total. Il fait intervenir un androïde dernier cri qui dialogue avec les musiciens. La machine humanoïde chante la musique écrite par le compositeur Keiichiro Shibuya, mais elle improvise aussi sa propre mélodie, les coulisses d'une prouesse technologique et les questions aussi qu'elle pose avec Louis-Valentin Lopez.
Nous rejoignons Keiichiro Shibuya dans un salon du Châtelet transformé pour l'occasion en studio. Un clavier, une console, des écrans d'ordinateur. Le compositeur japonais apporte les dernières touches à son spectacle Android Opera Mirror.
Je travaille depuis longtemps avec l'intelligence artificielle, pour écrire des paroles notamment. J'ai commencé à en créer en utilisant ChatGPT-2 et aujourd'hui ChatGPT-4. Moi et mon équipe, nous avons aussi élaboré un Android qui peut improviser en temps réel. L'Android Alter, sans programme, serait une coquille vide. Mais avec un programme, on lui donne la vie.
Et Alter est équipé d'un programme très complexe, nourri aussi d'une énorme quantité de musique.
Il est assez facile de créer des mélodies grâce à l'intelligence artificielle. Il m'arrive de jouer du piano, Alter l'Android, écoute et improvise une mélodie.
Cela pose inévitablement des questions d'ordre moral et éthique. Alter l'Android pourrait-il être considéré comme un artiste, voire les remplacer ? Keiichiro Shibuya, en tout cas, n'est pas très inquiet.
Je pense que ça peut même être une chance, une opportunité de créer des choses nouvelles. En plus, moi, je suis beaucoup plus à l'aise quand je travaille avec l'intelligence artificielle, peut-être même plus qu'avec d'autres humains.
Et sur la scène du Châtelet, Alter prend vie, créature arachnéenne, bionique, au visage poupin, entourée d'une chorale très particulière.
Bonjour, je m'appelle Aizen Fujiwara et je suis moine bouddhiste au Japon.
5 moines venus du mont Koya, une montagne sacrée, qui dialogue avec l'intelligence artificielle.
Sur scène, il y a des éléments si différents, l'androïde, les humains, le chant qui date de 1200 ans. Nous arrivons à nous harmoniser. Nous sommes tous des entités vivant sur cette terre.
L'androïde s'essaye même à la direction, chef, le temps d'une représentation de l'orchestre Appassionato. Camille Garand y est violoniste.
Les mouvements ne sont pas exactement les mêmes qu'un chef d'orchestre, mais par contre, il ou elle nous regarde, les yeux qui bougent, les paupières qui clignent, et c'est assez perturbant.
Avec en fond de scène des projections d'une artiste plasticienne, Justine Aymar.
Je vois pas d'opposition entre la nature et la technologie, puisque tout est nature. On a tout créé à partir de la nature, depuis les premiers silex taillés par les hommes et les femmes de la préhistoire, jusqu'à aujourd'hui, des robots hyper innovants.
Une technologie au service d'une émotion nouvelle qui interroge les limites mais surtout les possibilités d'une intelligence artificielle devenue furieusement réelle.
Une chanson créée par une intelligence artificielle, en l'occurrence Suno, cette plateforme qui permet à n'importe qui de générer une musique en un clic. Pour ce faire, il suffit de décrire à l'IA ce que vous recherchez, par exemple chanson disco en anglais, cela s'appelle un prompt. Ces voix, cette chanson, ça ne vous dit rien ? Vous avez peut-être reconnu le style et les voix du groupe ABBA. Et oui, l'IA de Suno a bel et bien généré une musique très, très proche de ce que fait le groupe suédois. Cet exemple a été révélé par le média Music Business Worldwide. En donnant à Suno les paroles de la chanson Dancing Queen d'ABBA, l'IA a alors reproduit le style et les voix du groupe. C'est la raison pour laquelle Suno est dans le collimateur des grands labels de disques américains. En juin 2024, Sony, Universal et la Warner ont annoncé déposer une plainte contre la plateforme de création musicale et Udio, une autre plateforme du même type. Selon cette plainte, ces deux services de création musicale causeraient, je cite, « un tort irréparable aux artistes et aux labels ». Pour comprendre le pourquoi de cette croisade judiciaire, une petite explication. Si on prend le cas de Suno, pour que l'intelligence artificielle puisse générer n'importe quel morceau en un clic, qu'il s'agisse de pop, de country ou de rap, il n'y a pas de mystère, il faut que cette IA s'entraîne. Pour ce faire, on lui donne une quantité astronomique de données, des milliers et des milliers et des milliers de musiques. Or, comment faire si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont utilisées pour entraîner l'IA ? C'est la raison pour laquelle les grandes maisons de disques réclament à Suno, tenez-vous bien, jusqu'à 150 000 dollars par titre utilisé sans autorisation. Et le problème, c'est l'opacité du modèle d'intelligence artificielle de Suno. Et oui, car il est facile de reconnaître le style et les voix du groupe ABBA dans l'exemple qu'on a cité. Mais pour toutes les autres musiques générées par IA, comment savoir quelles données, quelles musiques ont été utilisées pour entraîner la machine ? Et justement, durant l'été 2024, l'Union européenne a adopté une réglementation historique, c'est l'Artificial Intelligence Act, la première loi contraignante au monde sur l'intelligence artificielle. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'elle contient notamment une obligation de transparence en ce qui concerne les données utilisées pour entraîner une IA générative. Pour le moment, les contours en sont assez flous, mais cette réglementation pourrait servir à contraindre Suno, qui est aussi présent en Europe, à dévoiler les musiques que l'entreprise a utilisées. Cet enjeu autour des données d'entraînement des intelligences artificielles, ce n'est qu'une des ramifications de l'enjeu juridique de l'intelligence artificielle en musique. Des problématiques sur le droit d'auteur et l'IA, il y en a d'autres, comme nous l'explique Gréco Casadesus, compositeur et fondateur de l'Union des compositeurs de musique de film.
Si dans une œuvre qui est hybride, il y a la moitié qui est générée par une machine, l'autre par un humain, je pense que la société qui a fabriqué la machine va peut-être demander aussi à être rémunérée. Et là, il va falloir réfléchir à ça. D'ailleurs, ça amène aussi à la notion de l'œuvre. Qu'est-ce que l'œuvre aujourd'hui ?
Et c'est aussi la notion même d'artiste que l'intelligence artificielle pourrait bien redéfinir à l'avenir.
Le reportage de la rédaction, c'est la suite de notre série d'été comme chaque vendredi sur l'intelligence artificielle et les arts, aujourd'hui la peinture, à l'heure de la toute première galerie d'art intelligence artificielle à Amsterdam, ou encore d'un robot baptisé Frida capable de tenir un pinceau, jusqu'où ces outils de plus en plus puissants et à notre portée brouillent les perspectives. Reportage auprès d'artistes, de techniciens et d'un expert signé Éric Chavroux.
Emmanuel Potier, 39 ans et qui se dit peintre depuis toujours, a basculé dans l'IA. Même si son antre en plein cœur de Metz, avec ses toiles et ses odeurs de térébenthine, ne le révèle pas.
Oui, l'ordinateur, c'est un... Je ne sais pas si je l'appellerais un deuxième cerveau, mais en tout cas, ça fait partie de moi, effectivement.
L'ordinateur ou son téléphone pour se connecter à un programme encore expérimental que l'artiste a lancé en 2018 et a surnommé la Muse, ou comment faire de l'intelligence artificielle un outil d'inspiration pour la création dès la genèse de son œuvre. Les algorithmes proposent ainsi une image de départ pour une peinture grâce à l'image d'une toile et à celle d'un fond qu'on leur a livré.
Et ça fait comme un découpage-collage. Donc toutes ces étapes-là, en fait, elles sont pas visibles. On a juste à cliquer sur « Générer ». Et quand elle sera terminée, elle va s'afficher dans les interprétations.
Celle qui dirige aussi une association d'art contemporain joue désormais systématiquement avec ce programme en accès libre sur Internet, développé grâce à un chercheur et à des étudiants de Reims et de Nancy.
Pour l'instant, la muse réussit toujours à me surprendre, à me donner envie de peindre. Le but n'a jamais été que les images générées soient des œuvres en soi. Et ça crée une dynamique, quoi, de création.
C'est pas presque une paresse?
C'est vrai que ça, c'est un grand débat. On pourrait croire aussi que j'ai rien à dire, par exemple, en tant qu'artiste, et que du coup, je délègue même, mais pas du tout, parce que la muse, en fait, libère tellement la pensée. Elle me permet de ne pas choisir mon sujet, de pas avoir ce poids-là de la feuille blanche. Du coup, je me permets d'expérimenter d'autres matériaux, de reprendre, voilà, la technique de la craie grasse. Et c'est là où je prends énormément de plaisir, moi. Et de nombreux artistes se sont donné des protocoles de travail pour se sentir libre. Là, c'est plutôt des suggestions pour l'instant, mais moi, je me sens libre là-dedans, parce que je me sens libre d'être peintre.
À Ivry-sur-Seine, le pionnier Miguel Chevalier, qui s'est intéressé dès la fin des années 90 à l'art génératif et interactif, se confie face à ses fleurs, des fleurs animées sur un immense écran, grâce notamment au logiciel Midjourney, et bientôt projetées à Séoul avant des projets à Bangkok, en Arabie Saoudite, ou pour les Jeux Olympiques de Paris.
Pour que ce logiciel soit riche et crée des univers surprenants et qui se transforment au fur et à mesure que vous les voyez, ben il a fallu quand même l'alimenter. C'est-à-dire qu'en fait, on n'appuie pas sur un bouton et on y arrive à ce résultat ici. Un peu comme un DJ, ça va remixer à l'infini l'ensemble de la base de données que j'ai donnée. Je suis étonné qu'il y ait si peu d'artistes qui se posent davantage de questions par rapport à tout ça, parce que ça n'enlève pas la créativité. Moi, mon idée, c'est pas de dire le digital, c'est la panacée, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est en tout cas un champ qui permet de régénérer de nouvelles idées dans le champ des arts plastiques.
Et récemment exposé au Louvre, Miguel Chevalier présente d'entrée les techniciens qui œuvrent à ses côtés, comme Nicolas Gaudelet.
Cette année, à partir de cette année, Miguel est au programme d'art plastique du lycée. Au même titre que dans le programme, on a aussi Monet. Ce qui est quand même qui montre qu'aujourd'hui, en France, il y a un premier pas vers ces nouveaux médiums.
Ces peintures conçues avec l'intelligence artificielle suscitent de plus en plus de curiosité, mais sans explosion des prix, sûrement à cause de l'éclatement de la bulle des NFT. Et les experts dont le métier est remis en question par l'IA restent prudents, à l'image d'Olivier Houg, expert et galeriste à Lyon.
En tant qu'outil complémentaire, je trouve ça très intéressant. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, puisse donner un avis ferme et définitif sur l'authenticité d'une œuvre. Vous savez, il y a une chose que n'a pas l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la sensibilité, aussi bien du côté de l'artiste que du côté de l'expert.
Cette année encore, le sujet a fait débat aux Pays-Bas où une version de la jeune fille à la perle en intelligence artificielle a intrigué au Rijksmuseum d'Amsterdam, une jeune femme légèrement cernée, aux yeux bleu lagon, ses boucles d'oreilles sont phosphorescentes et son visage est parsemé de minuscules taches de rousseur. Nous avons essayé d'appeler le génie de Vermeer, mais il n'a pas réagi.
Thank you.
Alors ce petit voyage
très intéressant,
création.
Très intéressant, très. Ça, je me suis posé plein de questions. Il y a un petit côté vertigineux. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'évoquer en premier ? Que, effectivement, par rapport à l'émission de la semaine dernière, je pense que dans le domaine de la création, l'utilisation des IA, ça peut être un univers très passionnant. Qui ouvre tout un tas de champs, des possibles. L'intérêt, pour moi, enfin, c'est que tout ce que tu as pu évoquer au travers de cette émission, là où pour moi ça avait vraiment... l'intelligence artificielle a un intérêt, c'est quand, en fait, elle est maîtrisée, contrôlée par l'artiste.
Ben ouais, parce que c'est l'artiste qui a la main.
Exactement. En fait, c'est l'artiste qui a la main. Le côté production d'œuvres après ingurgitation de tout un tas de données, ce qui est en train d'envahir certaines plateformes musicales, pour moi c'est c'est terrible.
Aucun
quoi.
Intérêt.
Ça n'a aucun intérêt, sinon à mettre sur le marché des musiques en fait relativement médiocres, dont le marché est déjà inondé. Hein,
Bien sûr.
Parce que la création humaine, elle est riche et variée. Il y a le pire comme le meilleur, quoi.
Oui, bien sûr. Mais c'était moi ce que j'ai trouvé intéressant, si tu veux, dans ces podcasts, parce qu'en fait tout ça c'est des podcasts de Radio France, hein, tout ce qui était sur la musique, c'est c'était des podcasts sur intelligence artificielle et création et musique, sur France Musique. Et celui sur la peinture, c'était un podcast du reportage de la semaine là, sur France Culture. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à la fois, il y avait des artistes qui disaient comment est-ce qu'ils utilisent ça, mais qu'en même temps, il y avait des questions, des questionnements. Oui. Tu vois, quelles sont les limites jusqu'où on peut aller, etc. Enfin, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il n'y avait pas vraiment de parti pris. Ça titille ton intelligence, on va dire.
Mais en fait, tu vois, ces questionnements éthiques sur qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, quel sens elle peut revêtir, voilà, c'est quoi un artiste, quel est tu vois, l'urgence de son travail, la nécessité. Certains écrivains ne savent pas faire autre chose qu'écrire.
Oui, bien sûr.
Pour eux, c'est leur raison d'être, quoi. Mais tous les écrivains ne sont pas comme ça non plus.
Ouais.
Donc, à partir de quand on est considéré comme un écrivain ? Est-ce que véritablement il faut. C'est une raison de vivre ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent écrire, être reconnus comme écrivains, alors que pour eux, c'est pas forcément une nécessité non plus. Tout ça, ça pose des questions qui sont vertigineuses.
Comme tu disais, c'est une révolution de société, une révolution même au niveau de l'humanité. Après, dans les choix musicaux aussi, j'ai essayé de choisir des choses qui étaient, on va dire, qui utilisaient de nouveaux instruments pour leur époque ou de nouvelles façons de faire.
J'ai bien compris ça.
Tu vois. Donc, on a écouté le premier, c'était Hot Butter de Popcorn des années 70. Après, c'était les Beatles.
Bah oui.
66, Tomorrow Never Knows.
Yes.
Et là, c'est un remix de Psyché Rock de Pierre Henry.
La messe pour le temps présent.
Et ouais. Voilà.
Mon remix préféré. Mon mix préféré.
Bah voilà.
Merci, Ghislain.
Avec plaisir.
C'était très passionnant.
Merci.
On n'a pas épuisé le sujet, mais on l'a vu sous différents angles.
Et puis maintenant, c'est à vous, les auditeurs, de chercher.
Exactement. Et d'utiliser. Ou pas les intelligences artificielles.
À la semaine prochaine.
Ouais, à la semaine prochaine. Ciao.